Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons de réécouter maintenant l'émission diffusée le 30 novembre dernier. Amour, tendresse, complicité ou indifférence, rivalité ou exaspération, la fratrie est le premier laboratoire des sentiments contradictoires au sein duquel se nouent tous les jeux d'alliance, entente, disputes continuelles, tout est possible entre frères et sœurs. Et si la plupart des parents imaginaient des relations faites de fous rires, de jeux complices et d'intenses moments de partage, la réalité les ramène souvent à des scènes de jalousie, des cris, des croche-pattes et à la délation chronique. Aux parents alors de fixer des règles pour permettre aux enfants de s'épanouir en évitant les étiquettes ou les comparaisons qui blessent, de respecter leur singularité en conservant des moments pour chacun, d'engager une communication régulière avec tous les membres de la famille. Une tâche complexe, celle de surmonter les rivalités inhérentes à cette relation imposée, le défi de transformer ce chamboulement émotionnel en alchimie équilibrée, surmonter la jalousie des premières années pour éviter qu'elle ne soit refoulée au risque de durer toute une vie. Avec nous en studio, Dana Castro, psychologue clinicienne et psychothérapeute, directrice de l'école des psychologues praticiens. Vous venez de signer aux éditions Albin Michel le livre « Frères et sœurs, les aider à s'épanouir ». Et en deuxième partie de Priorité Santé, nous retrouverons en ligne du Sénégal Ismane Soukena Diop, psychologue clinicienne à Dakar, enseignante-chercheure à l'université Cheikh Anta Diop. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue.
Priorité santé sur RFI.
Dana Castro, décrypter les relations fraternelles, c'est constater des fonctionnements et aussi certains dysfonctionnements. C'est poser des questions, esquisser des réponses lorsqu'il y a un problème. Et la naissance d'une fratrie, c'est d'abord une annonce, hein, cette façon qu'ont les parents de faire savoir au premier enfant de la famille, eh bien, que dans quelques mois, dans quelques semaines, le bébé va arriver, il ou elle ne sera plus seul. Et vous l'écrivez dans votre livre, Dana Castro, pour ce futur aîné, eh bien, la naissance n'est pas forcément un heureux événement.
Non, ce n'est pas forcément un heureux événement pour deux raisons. D'abord parce que il comprend dès l'annonce que quelque chose va se passer dans la famille et que le danger qui pèse sur sa place plane sur lui et il le ressent. La deuxième raison est que lorsque ce bébé arrive, tout ce qu'il aurait pu s'imaginer ou toutes les histoires qu'il aurait pu se raconter pour se rassurer, je vais jouer avec, il va rester avec moi, je vais lui donner mes poupées, etc. Eh bien, tout cela ne va plus exister et à ce moment-là, il va constater qu'effectivement, toute l'attention des parents est partie sur le bébé. Donc, d'un côté, l'inquiétude de l'annonce, qu'est-ce qui va se passer, qui va être cette personne qui va arriver à la maison. De l'autre côté, la réalité et tous ses espoirs dans une forme de contrôle qu'il pourrait avoir sur ce petit personnage, eh bien, disparaissent.
Est-ce qu'il y a une bonne manière d'annoncer, justement, le père, la mère, annoncer que ce bébé va arriver, Dana Castro?
Je dirais que la bonne manière, c'est la manière simple. La manière simple qui décrit des faits sans fioritures diverses et variées, sans des tonalités de culpabilité qui laissent entendre à l'enfant que peut-être on lui dit pas toute la vérité, que peut-être il y a des raisons cachées derrière. Au fond, quoi de plus simple de dire que dans tant de mois, la famille s'agrandit avec un nouveau bébé, garçon ou fille, si les parents connaissent le sexe de l'enfant.
Et il y a un conseil à donner en termes de temps. Il faut attendre que, par exemple, le ventre de la maman s'arrondisse ou c'est quand on le sent, quand on en a envie, quand on en exprime l'envie?
Je pense que c'est mieux quand on le sent. Il faut être préparé. C'est toujours... Donc, c'est une préparation psychologique. Après, si la maman se transforme transforme et si tout d'un coup l'enfant voit qu'il n'a plus de place sur ses genoux, il peut se poser des questions qui l'inquiètent plus que tout simplement l'annonce. Mais pour les parents, je pense qu'il est important qu'ils soient prêts à le dire simplement, à le dire positivement. Pas à promettre monts et merveilles parce qu'ils ne vont pas pouvoir tenir, mais à le dire positivement et surtout à observer la réaction de l'enfant et éventuellement répondre à ses questions.
On parle souvent du rang de naissance hein, au sein de la famille. C'est important. Il y a d'autres éléments en ligne de compte. Le sexe, l'intervalle, hein, l'âge entre deux enfants, tout ça va jouer sur la disponibilité des parents, forcément. Et justement, ce temps accordé aux premiers ou aux aînés, c'est quelque chose de très important pour le ressenti par rapport aux relations entre frères et sœurs.
Oui, le temps, en fait, la relation avec l'aîné, c'est une relation vraiment privilégiée dans la mesure où il n'y a pas d'autres personnes autour. Et on observe d'ailleurs parfois que les petits, ceux qui viennent après, si l'aîné est jaloux des petits, les petits sont jaloux de l'aîné de par cette relation privilégiée qu'il a eue avec les parents et eux n'auront jamais. Donc oui, cette première relation va influer sur la relation avec les autres enfants. D'abord parce que c'est la première, c'est ainsi que les parents deviennent parents, donc par cette première relation à un enfant. Ensuite parce que cet enfant entre guillemets va les éduquer à une certaine façon d'être parent et va leur envoyer une image d'eux en tant que parents. Si tout se passe bien, quelle valorisation de se dire ah, on est des bons parents. Notre enfant est sage, il ne crie pas, il n'est pas difficile, etc. Et malgré tout et malgré tout ce qu'ils peuvent se dire, lorsque le deuxième arrive, ils vont peut-être s'attendre
à la répétition.
À la répétition. Et c'est pas souvent le cas.
Et c'est là que commence le danger de la comparaison.
Et c'est là que commence le. C'est pas qu'il y a un danger. Je pense qu'au début, il y a toujours une comparaison. Elle existe de toute façon. C'est comme ça, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Le tout, c'est de se rendre compte et de pouvoir vite rectifier le tir pour préserver la relation avec les nouveaux.
Et ne pas répéter ces comparaisons, on en reparlera tout à l'heure justement. D'accord. Par rapport aux étiquettes que l'on peut donner à certains.
Absolument.
De nos enfants. Mais justement, dans l'esprit des uns et des autres, est-ce qu'il y a une meilleure place que l'autre pour les enfants? Est-ce que on s'en tire mieux quand on est l'aîné, le cadet, le benjamin, ou ça dépend de chacune des familles?
À ma connaissance, non, il n'y a pas d'études. C'est-à-dire comment on peut répondre à cette question.
Ce n'est pas comme avant, quand il y avait des enjeux, par exemple, d'héritage ou des enjeux de division de la propriété.
En tout cas, dans la culture occidentale, c'est des choses qui ne sont plus d'actualité. Bon, les rivalités autour des successions existent et tout ça, mais non. Je pense que la place qui est accordée, la place dans la fratrie a une importance pour la construction de l'identité et pour le rôle que chaque enfant va jouer dans le système familial. Il faut savoir que la famille est un système, vous savez, avec plein de rouages et que finalement, il fonctionne parce que tous ces petits rouages se mettent en place. Donc, chacun a sa place et chacun contribue au fonctionnement du mécanisme. Donc, la place dans la fratrie est importante pour cela, pour faire fonctionner le groupe familial d'une manière plus ou moins équilibrée. Et ça, c'est au niveau groupal. Pardon. Et au niveau individuel, chaque enfant va aussi ainsi construire son identité. Ça veut dire quoi, l'identité? Ça veut dire va construire celui qu'il est ou celle qu'elle est pour se montrer au monde et pour se faire confiance à lui-même.
Alors, une famille, un couple parental, une mère, un père, des familles recomposées, des configurations donc variées. Hein. Tout ça a un impact sur les relations à venir, une effervescence des sentiments entre frères et sœurs, la réalité. Est-ce qu'imaginait-ce qu'en rêvaient peut-être les parents d'Anna Castro? On va se retrouver dans quelques instants, juste après une petite scène de famille. Mm-hmm. C'est un extrait d'un film d'animation des studios Pixar, Les Indestructibles, car même chez les super-héros, eh bien rien n'est simple, surtout avec deux ados et un bébé autour de la table.
Tiens, je viens de chercher une autre assiette.
Bon. Et toi, Violette, ça va les cours?
Rien à signaler.
Tu as à peine touché à ta viande.
J'ai pas très envie de pâter en croûte.
Qu'est-ce qui te ferait envie?
Tony Ridinger.
Toi, la ferme!
Quoi? C'est vrai?
Espèce d'insecte.
C'est vrai, hein?
Défense de crier à table. Chérie?
Les enfants, obéissez à votre mère.
Elle mangerait si on avait du Tony en croûte.
Ça suffit!
Les enfants, viens c'est toi qui commence.
J'ai besoin que tu interviennes.
Tu veux que j'intervienne?
J'interviens.
Violette, lâche tout de suite ton frère.
Ton père et moi avons l'intention d'en discuter.
Le vénard.
Voilà l'ordinaire d'une famille nombreuse vue par les studios Pixar en 2004. On vous retrouve Dana Castro, psychologue clinicienne, psychothérapeute. Pourquoi tant de chamaillerie entre frères et sœurs?
Pourquoi tant de chamaillerie entre frères et sœurs? D'une part parce que il y a beaucoup d'attirance et d'autre part parce qu'il y a beaucoup de jalousie, comme on vient de le dire. La scène dont on a entendu une séquence est vraiment très très illustrative, très typique de ce qui se passe. Il y a le grand qui rompt le contact avec les petits. Le petit est en manque de ce contact et de pouvoir admirer cette sœur aînée qui est tellement fascinante par sa vie cachée auquel on n'a pas accès. Et pour la faire réagir, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il cafte.
La provocation.
La provocation.
Et ça marche très très
et
bien.
Et ça marche. Et on voit le comment tout, finalement, d'un rien, tout le monde s'enflamme. Et ça peut dégénérer.
Ça prend des proportions importantes. D'autant plus que là, la maman demande au père d'intervenir. Il est plutôt passif. C'est important, l'entente parentale, justement, pour démêler ce genre de conflit.
C'est très important parce que là, on a presque l'impression qu'il s'agit de deux conflits. Un conflit dans le couple et un conflit avec les enfants. Or, vraiment, au même titre que les enfants font bloc contre les parents, et on voit dans des familles des coalitions qui se forment dans un but tout à fait utilitaire, c'est-à-dire juste pour faire front à l'autorité adulte, eh bien les parents sont une équipe, font front ensemble contre les exigences toujours croissantes
des
de
enfants.
La fratrie.
On va prendre un auditeur en ligne, si vous le voulez bien, Dana Castro. C'est une auditrice, c'est Dina, qui est en ligne de Libreville au Gabon. Bonjour Dina.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous raconter votre histoire, petite histoire de famille, votre témoignage tout de suite.
Bon, moi, je suis l'aînée de deux petits frères et deux petites sœurs. Et en 2014, le Benjamin, le petit frère, il est décédé. Donc, ça nous a beaucoup plus rapprochés, nous qui sommes restés vivants. Et moi, en tant qu'aînée, ma mère m'a appris à encaisser les coups. Et lorsqu'on se dispute, bon, bien entendu, ils s'éloignent, c'est normal. Mais c'est à moi de faire le premier pas vers eux pour pouvoir toujours cultiver l'amour, l'entraide, la compréhension.
Et ce rôle, Dina, il vous plaît, ce rôle en quelque sorte de grande sœur sans vraiment en avoir eu le choix?
Bon, je dirais pas forcément, ça dépend des événements que l'on vit. Lorsque vous avez la maman qui dit c'est toi l'aîné, c'est toi qui dois encadrer tout ce monde-là, à un moment donné, je me demande, mais moi, je vis quand? Puisque je dois tenir compte de ceux qui viennent derrière moi. Bon, après, quand on se voit, il y a de l'amour, il y a de l'ambiance. On met un trait sur ce qui ne va pas. On se concentre beaucoup plus sur le côté positif.
Dana Castro, votre réaction à ce témoignage de Dina?
Oui, c'est une situation qui est assez fréquente et comme vous le dites Dina si bien, vous vivez quand? Dans une situation comme celle-ci, eh bien, il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte. Effectivement, vous êtes l'aîné avec cette espèce de responsabilité qui pèse sur vous, mais en même temps, vous êtes Dina et vous avez vos propres espoirs, vous avez votre propre vie à mener. Je crois que dans une situation comme celle-ci, le danger, c'est de réagir en tout ou rien, ou je m'occupe de tous mes frères et sœurs ou de moi. Je pense qu'il est important de trouver un juste milieu et fixer des priorités qui pourraient être les vôtres, voire même une négociation avec tout ce petit monde, c'est-à-dire je vous encadre dans telle ou telle situation, mais après, vous vous débrouillez tout seul, d'autant que j'ai l'impression que votre fratrie n'est pas si petite. Enfin, je veux dire, on sont en âge de pouvoir se prendre aussi
se gérer par eux-mêmes. Dina, la réponse de Dana Castro vous convient?
Oui, dans une certaine mesure, mais...
Il y a moyen de discuter avec eux, par exemple, en dehors de tout moment de crise et d'établir un petit peu les choses calmement. Voilà, moi, c'est ça qui me ferait envie pour ma vie. Je suis toujours là pour vous, mais quand même, il y a un moment donné où je dois aussi penser à moi et à ma propre famille qui se construit. Ils peuvent entendre si
oui,
vous...
Oui, je suis d'accord.
Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Dina de cet appel de Libreville. On va passer tout de suite à Siméon. Siméon qui est en ligne de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Siméon.
Oui, bonjour Caroline.
On écoute votre témoignage.
Ok, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire. Parce que j'ai 23 ans et mon frère en a 25. Et j'aimerais donc savoir ce qu'il faut faire exactement pour instaurer le climat d'entente entre nous, car on se dispute trop et pour un rien. Même après une séparation de ville, c'est toujours la même histoire. Par téléphone, on se dispute, en face, on se dispute, et ça me fait mal et j'en ai marre. Mm. Et c'est pourquoi j'aimerais savoir ce qu'il faut faire exactement pour y remédier.
Et ça dure depuis que vous êtes petit, Siméon, ces chamailleries incessantes ?
Oui, exactement, oui.
Et vos parents intervenaient ou ils laissaient faire ?
Oh, deux fois, mais pas tout le temps.
Dana Castro, vous avez peut-être d'autres questions à Siméon.
Oui, j'aimerais savoir comment commencent les chamailleries. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur, vous n'avez pas la même vision, vous n'êtes pas d'accord sur une chose ou sur une autre. Est-ce que lui essaie de vous imposer son point de vue juste. Est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu comment finalement commencent ces chamailleries?
Voilà, c'est ça. Il aime toujours m'imposer son point de vue.
Okay.
Parfois que je n'admire pas. Et quand je ne veux pas, je le fais savoir que ça, je n'en veux pas. Et cela prend de l'ampleur.
Il a beaucoup d'autorité sur vous. Il n'accepte pas finalement que vous ayez vos propres opinions?
Carrément. Beaucoup d'autorité sur moi.
Ok. Pardon. Alors, dans ce que je comprends bien, il voudrait vous imposer sa loi et les chamailleries commencent parce que lui veut vous imposer sa loi et vous voulez le convaincre du fait que vous avez votre propre personnalité, ce qui est normal et surtout il faut pas y renoncer, et que vous avez aussi votre point de vue. Comme ça, à chaud et sans vraiment connaître ce qui se passe, je dirais que il y a deux méthodes pour vous sentir mieux. L'une, c'est celle que vous appliquez déjà et c'est super, c'est-à-dire de raccourcir, abréger les moments où vous êtes avec votre frère, et dès que vous sentez que ça tourne vinaigre, couper court et vous investir dans autre chose. Donc ça, c'est vraiment lorsque vous êtes en face de lui. Après, le travail psychologique que vous pourriez faire, c'est de vous dire que vous n'avez pas besoin de le convaincre. Il faut juste exprimer le fait que vous n'êtes pas d'accord et après, à lui de gérer cela. C'est-à-dire, ce que je veux dire, si on rentre dans « mais non, je vais t'expliquer pourquoi j'ai besoin de faire ça, je suis pas d'accord avec toi », on risque de rentrer dans une espèce de cercle de manipulation où il va vous sortir des histoires qui sont passées il y a 10 ans et vous allez lui sortir des histoires qui sont passées il y a 5 ans et on ne s'en sort pas. Dans la mesure où vous acceptez que c'est votre point de vue et que votre point de vue est légitime et que votre point de vue est vrai parce que c'est le vôtre, alors essayez de ne pas vouloir absolument le convaincre pour qu'il valide votre point de vue. Juste faites-le lui savoir et c'est tout.
Siméon, merci pour votre témoignage. On va se retrouver dans quelques minutes, Dana Castro, si vous le voulez bien, après cette petite pause en musique avec Ben, l'oncle Saul.
Comment te dire, ça me fait de la peine. Je ne vais pas te mentir, malgré l'ampleur du phénomène. J'ai pas le souvenir de t'avoir vu zen, non. Tu les fais s'enfuir, sans deviner ce qui les gêne. Entre nous, vivre avec toi est un cauchemar. Ils t'ont laissé, ouais, c'est tous des connards. Ouais, j'aimerais t'aider, j'aimerais te le croire, mais je te connais pas.
à faire. Tu as comme un don pour les pousser à l'adultère. Ouais, t'as rendu ça ne tourne pas rond. Tes amours ont un air d'incarcération. Quand tu t'y mets pour être
Priorité santé, nous sommes avec Dana Castro, psychologue clinicienne, psychothérapeute, directrice de l'école des psychologues praticiens et auteure du livre « Frères et sœurs, les aider à s'épanouir » paru aux éditions Albin Michel. Alors on vient d'évoquer ce bouleversement qu'implique l'élargissement de la famille, cette relation fraternelle qui persiste et existe en dépit de toutes les séparations. Dana Castro, justement, on va poursuivre cet échange avec les auditeurs de RFI et on retrouve en ligne Loufa, qui est en ligne de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Loufa, on vous écoute.
En fait, je suis issue d'une famille de 4 filles, dont je suis la 3e. Et je ne m'entends pas très bien avec mes 2 sœurs. Par contre, je m'entends très bien avec ma petite sœur. Et je ne sais pas pourquoi, donc j'aimerais que vous me donniez une solution pour ça.
Dana Castro, la question de Loufa qui porte sur en fait des sous-groupes au sein des fratries.
Oui, des sous-groupes au sein des fratries, on voit cela arriver. C'est un phénomène effectivement très fréquent lorsqu'il y a des grandes fratries. On appelle ça des coalitions, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui se montent contre d'autres ou en tout cas qui s'opposent à d'autres. Alors, pourquoi ces groupes se montent-ils? Ou bien, je dirais que le moteur essentiel, c'est une forme de jalousie et d'envie qui est à la base de toute coalition. Et puis, une forme de garder les privilèges. Les grands, en général, sont plus autoritaires vis-à-vis des petits et donc, ils estiment qu'ils ont le privilège de l'âge pour imposer un point de vue à d'autres.
Loufa, c'est ce que vous ressentiez au sein de votre famille, les grands essayaient un petit peu de faire leur chef?
Effectivement. Ils veulent toujours qu'on les suive. Ils prennent la décision à notre place.
Et même une fois que vous êtes adulte, les choses n'ont pas changé?
Non, ça n'a pas changé. Dès que j'ai eu mon bac, ils m'ont imposé à faire quelque chose que je ne voulais pas.
Voilà, et donc, vous voyez, ça c'est le privilège, en fait c'est le privilège, là c'est la question du pouvoir, qui a le pouvoir dans la famille, et donc dans ce que vous dites, on voit que le privilège, que le pouvoir, que grande sœur voudrait garder le pouvoir, après elles sont proches dans l'âge comme vous êtes proche de votre petite sœur, et c'est ce qui les a fait s'unir. Maintenant, vous dites être proche de votre petite sœur, et je pense que à deux, on est toujours plus fort qu'en étant seul. Donc, comment avec votre quelles sont les stratégies que vous pourriez trouver avec votre petite sœur pour ne pas vous entre guillemets soumettre au pouvoir des aînés? parce que vous êtes vous, vous avez votre petite sœur et elle-même, et vous avez tout à fait, c'est tout à fait légitime que vous ayez un point de vue différent.
Et quand vous leur dites justement c'est ma vie, ce n'est pas la vôtre, est-ce qu'elles acceptent ce point de vue ?
Non, elles n'acceptent pas, non.
Je dirais que dans ce cas, j'ai presque envie de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Le danger du le conflit s'aggrave lorsqu'on veut absolument convaincre l'adversaire et avoir sa validation sur le bien fondé de notre pensée. Donc, en fait, il s'agit de faire ce que vous avez à faire sans demander la permission. Au fond, comme vous dites, Caroline, ne pas se justifier.
Ne pas se justifier parce que vous êtes adulte, Lufa. Vous avez 23 ans, donc c'est plus l'âge d'obéir, finalement.
C'est plus l'âge d'obéir. Vous êtes adulte et vous faites ce que vous pensez être bien pour vous.
Merci beaucoup, Lufa, pour cet appel de Yaoundé. Hein. On entend ces termes, soumission, jalousie, ce sont quand même des termes assez violents.
Oui.
C'est pas ce qu'on imagine forcément entre deux petits-enfants, hein, quand on les voit jouer. On n'imagine peut-être pas qu'il y a des relations aussi passionnelles qui se nouent au sein d'une fratrie. Du moins, c'est le point de vue des parents, toujours cette fameuse famille idéalisée.
La jalousie est un sentiment très intense et il faut se dire qu'elle existe toujours et qu'elle existera toujours. Elle a même une fonction positive, peut-être qu'on va en parler après, mais ce qui va faire la différence entre la jalousie normale, celle qu'on ressent de toute façon, parce que qu'est-ce que c'est la jalousie ? C'est la crainte qu'on a de perdre quelque chose auquel on tient beaucoup et particulièrement un lien. Et donc, elle va mobiliser toutes les forces qui sont en nous pour essayer de garder ce lien, cette personne qui nous importe. Donc, vous voyez, ça, c'est un caractère positif. Après, si elle devient trop envahissante et si c'est trop intense, elle peut être destructrice. Et donc, effectivement, là, des adultes doivent intervenir. Non, et on n'imagine pas, je veux dire autre chose, c'est que c'est un sentiment très intense. Qu'il soit normal ou pas normal, c'est un sentiment très intense.
Qui peut faire mal.
Qui fait mal. Ça fait mal de toute façon, mais on le gère plus ou moins bien ce mal après. Les parents, parce qu'ils voient la famille comme un havre de paix où tout le monde s'entend et c'est ça qui fonde le désir de la famille, etc., sont toujours frappés, sont toujours surpris lorsqu'ils constatent l'existence de la jalousie chez les frères et sœurs.
Avec des interactions qui évoluent à travers le temps, avec un passage important au moment de l'adolescence,
oui.
Avec... dans certains cas, même l'éloignement, la rupture, c'est ce qu'on va entendre à travers ce témoignage. Marie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une petite sœur. Quelle est votre différence d'âge avec votre grand frère ?
On a 2 ans et demi, à peu près.
Quels souvenirs d'enfance vous conservez avec lui ?
On a passé toute notre enfance ensemble jusqu'au collège, à l'entrée du collège. Après, nous sommes allés en internat. Donc, c'était vraiment le côté enfant, comme des frères et sœurs. On se disputait beaucoup, mais on s'aimait beaucoup aussi.
Quels adjectifs vous viennent en tête, justement, quand vous pensez à votre frère à ce moment-là, quand vous étiez enfant ?
Bah, c'était la famille, c'était mon frère. Enfin, je ne me suis jamais réellement posé de questions. Il a toujours été là, donc c'était...
Complice, copain, rival ?
Je dirais complice et rival, parce que complice, parce qu'on pouvait faire beaucoup de jeux ensemble, mais aussi rival, quand on faisait des jeux de société, ça pouvait durer des semaines, parce qu'il voulait jamais perdre.
Quand est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que vous avez, par exemple, en mémoire, un événement où vous avez senti, là, vraiment, une distance s'installe ?
Ça a été progressif. Pendant plusieurs années, ça a été de pire en pire, mais ça a pris son temps. Ça n'a pas été un choc, on ne s'est pas dit, oh là là, à cette date-là, tout a basculé.
Alors, de cette complicité que vous avez évoquée, aujourd'hui, il en reste quoi ?
Rien du tout. On ne se voit plus du tout, on ne se fréquente pas et je n'ai aucun désir de le revoir. Il s'est créé un monde et je pense qu'il est tellement persuadé de tout ce qu'il dit que rien ni personne ne peut intervenir dans ses propos. Je pense qu'il est très mal entouré et j'ai toujours cru que bon, mais c'était mon frère, il passait un mauvais cap, ça irait mieux, on est une famille, on est... Mais je crois que j'étais toute seule à penser ça.
Est-ce que vous êtes nostalgique de cette relation ?
Ça m'a beaucoup blessée, puis maintenant, parce qu'il a été très loin dans ses propos et son comportement, et qu'aujourd'hui, il est tellement devenu toxique pour moi que je suis très bien sans le voir, quoi. Je veux plus, je peux plus.
C'est ma dernière question. Est-ce que ces relations qui se sont donc complètement dégradées vous ont fait réfléchir à la façon de transmettre justement cette relation frère et sœur à vos propres enfants?
Je me suis très souvent posé la question. J'ai fait 3 filles. J'espère juste qu'elles trouveront un équilibre et qu'elles continueront à se voir toujours. Je pense que c'est une maman ne souhaite que ça, quoi. J'essaie de leur apprendre aujourd'hui à pas être jalouse l'une de l'autre, à pas les différencier.
Priorité santé sur RFI.
Alors Dana Castro, les ruptures amoureuses, on en parle souvent, hein, tout le monde connaît. On parle peut-être beaucoup moins de ces ruptures de fratrie.
Oui, tout à fait. On parle beaucoup moins des ruptures de fratrie, qui sont aussi des ruptures émotionnelles très fortes, comme on vient de l'entendre dans le témoignage, et qui forcément laissent des traces. Le témoignage est très émouvant parce que on voit comment l'espoir finalement se transforme en peine, et c'est toujours très poignant de voir ce processus. En général, les ruptures sans événements particuliers, comme en général, donc, commence au moment de l'adolescence. Marie nous parle de l'entrée au collège où le jeune est finalement très influençable et très conforme au groupe. Donc, finalement, ce qui va primer pour lui à ce moment-là, c'est pas tellement la famille, la petite sœur, tous les petits jeux qu'il y avait avant, mais c'est d'être accepté par le groupe auquel il veut appartenir. Et à ce moment-là, la distance peut s'installer parce que les valeurs du groupe ne sont pas celles de la famille et le dialogue peut se rompre.
Alors, on va prendre en ligne du Sénégal Ismane Soukena Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne à Dakar, enseignante-chercheure à l'université Cheikh Anta Diop. Cette émission consacrée aux frères et sœurs, est-ce que les Sénégalais ont recours à des thérapies familiales?
Alors écoutez, il y a un groupe de thérapie systémique au Sénégal qui dispense des formations. Il y a des professionnels qui sont formés et qui travaillent dans des structures nationales. Et donc oui, ce service existe. Maintenant, il n'est pas très répandu, mais il existe tout de même. Donc je pense qu'on peut dire que oui, les Sénégalais peuvent avoir recours à des thérapies familiales.
Est-ce que justement ces thérapies, les gens viennent vous voir pour des problèmes de fratrie, Ismane Soukena Diop, avec des récits qui ressemblent un petit peu à ceux que l'on vient d'entendre de la part de nos auditeurs, des conflits, voire dans certains cas des ruptures?
Alors écoutez, oui, mais en général, la personne ne vient pas avec sa famille, elle vient toute seule et elle explique des problèmes circonstanciels et elle les met en rapport avec des problèmes familiaux qui existent.
J'ai la même vision en France.
La même expérience,
voilà,
avec...
Oui.
Et comment les parents interviennent dans ces relations parfois conflictuelles?
Écoutez, dans notre contexte, ici en Afrique de l'Ouest, il y a différents paramètres à prendre en compte parce que l'individu lui-même n'est pas tout seul. Et en plus, rien que par son existence, il représente non seulement la lignée, mais en plus, il porte le nom de quelqu'un. Et donc, il peut représenter aussi et transporter une relation que le parent avait avec cette personne.
Alors
donc la relation que le parent construit avec son enfant, elle est aussi, on va dire, parasitée, ou alors en tout cas, elle est aussi encouragée par la relation précédente qu'il avait avec la personne dont il a donné nom à son enfant.
Alors, justement, comment, dans ce cas où le problème est ancré de façon si intime sur la personne, comment dépasser ce type de problème, ce type de conflit au sein des familles?
Écoutez, en général, le langage et l'élaboration permettent de plus ou moins élaborer ou alors mettre en mots les conflits. Il y a des conflits qu'on peut essayer de gérer, il y a des conflits qu'on doit accepter de dépasser, de pouvoir supporter ou alors de pouvoir ignorer ou de passer à autre chose et de construire une identité propre.
Merci beaucoup.
Pour la personne qui vient toute seule.
Merci infiniment, Ismane Soukena Diop. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à Dakar. Ce sera notre conclusion. Le temps passe très vite, Dana Castro. Parler le langage, hein, ce qu'on vient d'entendre à l'instant avec votre consoeur, garder le contact quoi qu'il arrive, c'est un petit peu le maître mot entre frères et sœurs et en général dans la famille.
Garder le contact quoi qu'il arrive et savoir que c'est une tâche de toute une vie. elle ne s'arrête jamais. Donc c'est un contact, les stratégies de garder le contact sont des stratégies à recommencer en permanence.
Sauf quand il y a évidemment quelque chose de traumatique qui impose une rupture beaucoup plus définitive.
Qui impose une rupture tout à fait définitive, mais dans mon expérience, parfois lorsqu'il y a des moments, même si les frères et sœurs ne se parlent pas pendant des années, s'il y a un moment vraiment très difficile dans la famille, il y a une possibilité de retour et de restauration du lien autour de l'entraide.
On n'a pas utilisé le mot, hein, c'est le mot chouchou, souvent dans la famille. Je ne sais pas si c'est utilisé dans toutes les cultures. En tout cas, l'enfant préféré, le fils préféré, quand on est le chouchou, ce n'est pas forcément la situation la plus simple.
Contrairement à ce que les autres frères et sœurs peuvent penser, être un chouchou n'est pas la situation la plus simple parce que sur un chouchou, on met beaucoup d'espoir et on le charge psychologiquement de lourdes attentes. Et en fait, il faut qu'il ne faillisse jamais à son rôle de chouchou, c'est-à-dire apporter être amusant, être gentil, apporter tout ce que les parents ont besoin affectivement. Il y a être chouchou peut avoir aussi je vais dire autrement. Lorsque quelqu'un est le chouchou et assiste à des injustices au sein de la famille, eh bien, il est aussi impacté. C'est-à-dire, quand il voit qu'à cause de lui, les autres sont injustement punis, il est impacté également.
On voit bien le côté interaction, tout ça est complètement imbriqué. Merci pour votre éclairage, Donna Castro. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, auteur du livre « Frères et sœurs, les aider à s'épanouir » publié aux éditions Albin Michel. Bonjour docteur Solano.
Bonjour Caroline.
Vous êtes sexologue. Aujourd'hui, vous allez répondre à des questions d'adolescents, ces adolescents à la puberté, au début de leur vie sexuelle, qui se posent beaucoup de questions justement, et ils n'osent pas forcément en parler aux adultes.
Oui, alors je vais vous dire la question la plus fréquente qu'on entend chez les filles à l'adolescence, c'est pourquoi mes petites lèvres dépassent des grandes lèvres. Et ça, c'est vraiment important de leur expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, vous savez ce qui se passe, c'est qu'à la puberté, eh bien, les seins poussent, les poils poussent, mais on ne dit jamais aux petites filles que leurs petites lèvres vont pousser aussi. Donc, en fait, à l'âge adulte, chez 8 femmes sur 10, une fois que la femme a fini sa croissance au moment de la puberté, ben les petites lèvres, elles dépassent des grandes lèvres chez 80% des femmes. Et donc, il faut leur expliquer ça, qu'il y a une croissance à ce niveau-là aussi. Et puis j'ajoute qu'il y a une autre question aussi posée par les adolescentes, c'est mais pourquoi j'ai une petite lèvre plus grande que l'autre? Et bien simplement parce que c'est le cas pour toutes les femmes. Les tissus des petites lèvres sont asymétriques parce que ça correspond au tissu des bourses chez l'homme. Et les bourses, c'est l'enveloppe des testicules, ben, y en a toujours une plus haute que l'autre. Elles sont pas du tout symétriques. Et ben, c'est pareil pour les petites lèvres.
On passe maintenant, docteur Catherine Solano, à une question d'adolescent ou masculin. Question de garçon.
Alors, une question qui est posée très souvent, c'est pourquoi j'ai plein de petits boutons sur le pénis? Est-ce qu'il faut les percer? Alors, la réponse, c'est non, il faut pas les percer. Parce que, effectivement, il y a des petits points qui parfois sont un peu blancs sur la tige du pénis. Mais ce ne sont absolument pas des boutons. Ce sont des petites glandes qui produisent une substance qui sert à hydrater la peau parce qu'elle est fine et fragile à cet endroit-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit ces petites glandes, c'est parce que la peau est très fine, un peu transparente. Et donc, il faut les laisser tranquilles et les laisser fonctionner. Et puis, il y a autre chose que demandent souvent les garçons, c'est que certains garçons ont ce qu'on appelle une couronne perlée du gland. C'est autour du gland, ce sont des petits points blancs qui font comme une couronne. Et ça, c'est totalement normal. C'est pas une maladie transmissible, ni même une maladie tout court. C'est normal. C'est dû à l'imprégnation du corps des hommes en testostérone, en hormones mâles. Et donc, c'est ni contagieux, ni dangereux. Et il faut les apprécier, tout simplement.
Alors, des questions d'anatomie, ce qui est vraiment visible à la puberté. Le corps change aussi de fonctionnement. Là aussi, ça pose certaines questions.
Alors, les questions du côté des filles pour le fonctionnement, c'est des questions sur les pertes blanches. Et ça paraît bizarre, mais il y a beaucoup de mamans qui leur expliquent pas ce que c'est que les pertes blanches. Donc, les pertes blanches, chez les jeunes filles ou chez les petites filles, elles apparaissent environ un an avant les premières règles. Et non seulement c'est normal d'avoir des pertes blanches, mais c'est un signe de bonne santé et de bonne fertilité pour la suite. Pourquoi ? Parce que le vagin, il a besoin d'être humide avant de commencer sa vie sexuelle. Et les pertes blanches, surtout quand elles sont très transparentes, c'est important pour pouvoir avoir des enfants. Et aussi, il faut savoir que ces pertes blanches, elles vont commencer à la puberté, mais elles vont durer toute la vie. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent, mais bon, je sais qu'il y a des pertes blanches à la puberté, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Eh ben, ça s'arrête pas, ça fait partie de la vie.
Alors, avec aussi un certain nombre de questions, forcément, sur les règles.
Oui, sur les règles, souvent, pour les premières règles, elles sont très peu abondantes. C'est juste des petits saignements et donc elles vont être marron ou noir. Et alors les jeunes filles se disent, au secours, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais entendu parler des règles et des saignements, mais moi j'ai quelque chose de noir ou de marron. Et il faut leur expliquer, et c'est important parce que sinon ça les angoisse, que quand le sang est en toute petite quantité, eh bien il s'oxyde à l'air et donc il est marron ou noir et c'est tout à fait normal. Puis il y a des filles aussi qui s'inquiètent parce qu'elles ont entendu dire que les cycles c'était 28 jours. Elles se disent, mais moi c'est 22 ou c'est 30. 34, elle se dit j'ai un problème, et eh ben non, c'est normal, le corps n'est pas une machine, donc on dit c'est 28 jours en moyenne, mais il faut souvent du temps pour que les cycles se régularisent chez les toutes jeunes filles, des fois il faut 2 ans pour avoir des cycles à peu près réguliers.
Et puis, on est équitable, hein? Question de garçons.
Alors, les garçons, souvent, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce liquide qui sort de mon pénis avant l'éjaculation? Et il y en a même qui se disent, mais j'ai l'impression d'avoir des fuites. Alors, je trouve que ça serait bien que les pères expliquent à leurs garçons que c'est normal. Quand il y a une érection, au début de l'excitation sexuelle, il y a un liquide qui sort du pénis. C'est pas du tout du sperme, c'est un liquide qui sert à nettoyer l'urètre pour que les spermatozoïdes ne soient pas abîmés par l'acidité de l'urine. Et donc, c'est normal. Et puis aussi, il y a beaucoup de garçons qui se demandent, mais pourquoi, quand j'ai une éjaculation, le sperme n'est pas toujours pareil? Des fois, il est transparent, des fois, il est un peu opaque, des fois, il y a comme des petits morceaux, etc. Et ben, c'est normal parce qu'en fait, le sperme, c'est pas un liquide qui est prêt à l'emploi dans le corps, c'est un mélange de plusieurs composants et le mélange, il est jamais tout à fait le même et du coup, il a jamais tout à fait le même aspect.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, sexologue. Merci de répondre à toutes ces questions. Toujours avec le docteur Catherine Solano, sexologue, nous allons maintenant répondre à l'une des questions d'un auditeur. C'est une auditrice, c'est Fatimé, elle est en ligne de Djamena au Tchad. Bonjour Fatimé.
Bonjour Caroline et bonjour docteur.
Alors Fatimé, expliquez-nous exactement ce qui vous préoccupe.
Bon, je suis mariée presque 7 mois déjà. Mon mariage a été une surprise pour moi. J'ai vu mes règles 3 fois dans le même mois et par la suite, chaque fois qu'on passe un rapport sexuel, ça me fait très mal. Je n'ai pas envie de le faire, ni moi de plaisir aussi. Et dernièrement, je constate qu'il n'y a pas de lubrifiant au cours de notre rapport sexuel. D'abord, il ne pourra pas éjaculer et on arrête tout au long, on arrête immédiatement. Donc, nous serons tous blessés par manque de lubrifiant.
Docteur Catherine Solano.
Alors déjà, ce qui compte, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous avez ce problème de lubrification. Et je dis souvent, la médecine, c'est comme une enquête. Avant de trouver la solution, faut chercher la cause du problème, donc faire une petite enquête. Donc, vous n'avez pas d'enfant, vous venez de vous marier là.
Zéro enfant.
Vous zéro enfant. Je vous demande ça parce que après un accouchement, les femmes ont toujours des problèmes de lubrification pendant plusieurs mois. Je vous le dis pour vous aussi, le jour où ça vous arrivera. Donc, c'est pas ça. Deuxième question, est-ce que vous prenez des médicaments?
Oui, ça fait... J'ai pris depuis presque déjà 3 mois. Je suis arrivée au terme de mon traitement. Mm-hmm. Ça fait 3 mois déjà. Donc, dans quelques jours, je vais voir le gynécologue. Et pas de changement.
Oui, mais là, c'était un traitement pour essayer d'améliorer votre lubrification, c'est ça?
Bon, il m'a dit ça.
Voilà. Mais vous prenez pas de médicaments pour autre chose? Est-ce que vous avez une contraception, un médicament, une pilule, voyez, quelque chose que vous prenez autrement?
Non.
D'accord. D'accord. Alors, c'est important parce que les personnes qui prennent des médicaments, les femmes qui prennent des médicaments, ça peut entraîner des troubles de la lubrification, certains médicaments. Donc, il faut lire les notices des médicaments. Bon, c'est pas votre cas, là, mais c'est important de le savoir. Parce qu'il y a des médicaments où c'est marqué sécheresse des muqueuses, c'est la bouche, c'est le nez, etc. Mais c'est aussi au niveau vaginal. Donc, ça peut donner des problèmes de lubrification. Et puis aussi, quand c'est marqué impuissance, ça paraît bizarre, ou trouble de l'érection. Parce que chez la femme, l'équivalent, c'est un gonflement du vagin qui se fait pas et un manque de lubrification. Donc, c'est pas ça. Autrement, est-ce que vous utilisez des préservatifs?
Non.
Non. Donc, bon, ça, c'est une bonne chose parce que avec les préservatifs, il faut une lubrification beaucoup plus importante. Donc, c'est pas ça. Et alors, autre question, est-ce que vous avez du désir? Est-ce que vous en aviez au début? Parce que là, vous nous dites que vous n'en avez plus, mais est-ce que vous en aviez au début?
Maintenant, je n'ai pas le désir de le faire parce que chaque fois on se blesse partout, lui et moi.
Donc... Vous avez mal. Alors, est-ce qu'il y a des préliminaires qui sont assez longs, c'est-à-dire des câlins, des baisers, des caresses sur le visage, sur le corps, avant d'arriver aux caresses sur la zone sexuelle?
Oui.
Ça dure longtemps.
Ça dure longtemps.
Oui, parce que on estime qu'il faut au moins 20 minutes de câlin comme ça à une femme pour avoir une lubrification suffisante. Est-ce que on est 20 minutes?
Ça, j'ai suivi plusieurs fois, on a essayé, mais ça passe pas.
Même quand vous faites des préliminaires qui sont longs?
Oui, longs quand même, ça passe pas.
D'accord, d'accord. Alors donc les solutions, il y a plus. Est-ce que vous avez eu autrement quelque chose qui vous a fait très peur au niveau de la sexualité, soit quelque chose que vous avez vécu, qu'on vous a dit, que vous avez entendu, enfin ou vu?
C'est l'accouchement.
Vous avez peur de l'accouchement?
Oui.
D'accord, d'accord. Alors, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs choses à faire. La première chose à faire, toute simple, c'est d'utiliser du lubrifiant. Vous en utilisez ou pas? Mais beaucoup de lubrifiant, il faut carrément, j'allais dire, tartiner le pénis de votre partenaire de lubrifiant et l'entrée de votre vulve et le vagin de manière à ce que ça puisse glisser facilement. Parce que quand on n'a pas de lubrification, on a mal, donc on n'a pas envie. Comme on n'a pas envie, on n'a pas de lubrification, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut beaucoup lubrifier. D'accord? Deuxième chose, c'est qu'il faut vous entraîner tous les deux à faire des caresses au niveau de la vulve et du vagin avec un doigt. Parce qu'un doigt, c'est plus petit qu'un pénis, pour que votre vagin s'habitue à un contact amical, gentil, amoureux et qui lui fasse pas mal. Et aussi avec beaucoup de lubrifiant. Et puis, troisième chose, c'est que si vous avez peur de l'accouchement, c'est une cause de difficulté sexuelle. Parce que c'est comme si le corps se disait, moi j'ai trop peur d'accoucher un jour, donc je veux pas de bébé, donc j'évite les rapports sexuels, comme ça j'aurai pas de problème. Et des fois, il y a besoin de parler avec des femmes qui ont accouché et pour qui ça s'est bien passé. Quelquefois, il y aurait presque besoin d'assister à un accouchement, mais bon, je ne sais pas parce que c'est tellement magnifique, mais ça peut faire peur aussi quand on n'a pas l'habitude. Quelquefois, il faut voir un psychologue ou quelqu'un qui vous aide à surmonter ça. Parce que ça serait dommage que ça bloque votre vie amoureuse et votre vie de future maman et de future d'épouse, puisque vous êtes mariée, hein.
J'ai envie toujours.
Alors vous savez, moi quand je devais accoucher, donc j'étais enceinte, j'avais peur d'accoucher. Bon, tout le monde a un petit peu peur d'accoucher, je pense. Et je marchais dans la rue, je me disais, bon, je vois plein de femmes autour de moi, elles ont presque toutes accouché, elles n'ont pas l'air traumatisées, donc ça doit être possible. Voilà ce que je disais. Vous voyez? Et je peux vous le dire, j'ai accouché, c'est possible, hein.
Okay.
Surtout à notre époque, voyez. Peut-être qu'il faudrait aller voir un gynécologue et lui dire, quand je vais être enceinte, est-ce que vous pouvez me suivre, vous renseigner pour trouver quelqu'un de bien et vous sentir en sécurité aussi, voyez, pour que votre corps se dise, bon, ben ça y est, Fatimé s'occupe de ça, maintenant je suis tranquille, ça se passera bien, je serai bien suivie.
Merci Fatimé pour votre appel et merci à vous, docteur Catherine Solano. Je rappelle que vous êtes sexologue. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et prépare votre émission. Et demain, nous parlerons de l'allaitement. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.